Bonjour à tous. L'émission d'aujourd'hui a été préparée par Amélie Perrault et Julie Delabrosse. À la réalisation, Elisabeth Miro, prise de son, Jean-Guilain Meige.
Entendez-vous l'écho? Tiphaine de Rocchini.
L'actualité écho décryptée par des acteurs et des chercheurs de tous bords, c'est tous les vendredis à 14h dans Entendez-vous l'écho sur France Culture. Aujourd'hui, on s'intéresse au bras de fer budgétaire qui oppose Rome à Bruxelles. Le gouvernement italien a présenté en début de semaine une loi de finances pour 2019 prévoyant un déficit public de 2,4% du PIB. C'est en dessous de la règle des 3% prévue par Maastricht, mais c'est trois fois plus que l'engagement qui avait été pris par le précédent gouvernement. Pour le mouvement 5 étoiles et la Ligue, ce qu'ils appellent le budget du peuple devrait permettre de relancer l'économie tout en redistribuant aux plus démunis. La Commission européenne, de son côté, dénonce un dérapage sans précédent. Alors comment comprendre cette résistance italienne face à Bruxelles? Quelles pourraient être les conséquences économiques et politiques de ce budget hors des clous, selon l'expression de Pierre Moscovici? Et plus largement, faut-il réformer les règles budgétaires européennes? Voilà les questions auxquelles on va tenter de répondre avec nos invités. À 14h45, on retrouvera la bibliothèque idéale de l'écho. Aujourd'hui, Jacques Sapir revient sur l'ouvrage méconnu de George Shackle, Expectations in Economics, les anticipations en économie. Trois invités autour de la table donc. Bonjour Francesco Saraceno. Vous
Bonjour.
Êtes directeur adjoint de l'OFCE, l'Observatoire français des conjonctures économiques et membre du conseil scientifique de l'Université Louis de Rome. En face de vous, Yves Bertoncini, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes président du mouvement européen France et ancien directeur de l'Institut Jacques Delors. Et enfin, Léni Benbara, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur de la publication du média en ligne Le Vent se lève. Merci à tous les trois d'être avec nous.
Ce sont des mesures historiques et surtout nous commençons à enlever aux puissants pour donner à tous ceux qui se cassent le dos au travail. Nous expliquerons au marché qu'il y a tellement d'investissements avec ce déficit à 2,4% que l'économie se relèvera autant que nous le voulons.
Vous, les donneurs de leçons, vous savez combien de jeunes Italiens fuient leur pays parce qu'ils n'ont plus d'avenir, pas de travail? Je gouverne depuis 4 mois, mais vous qui avez été aux responsabilités depuis 10, 20, 30, 40 ans, vous faisiez quoi? Vous, les géniaux représentants de l'économie, tout ce que je vous demande aujourd'hui, c'est de nous laisser travailler.
Je me rends parfaitement compte que ce n'est pas le budget qu'attendait la Commission, mais je suis prêt à recevoir des observations. Nous nous mettrons autour de la table pour discuter et bien sûr nous répondrons à ces critiques dans un dialogue constructif.
Vous avez peut-être reconnu les voix de Luigi Di Maio, puis de Matteo Salvini, les deux vice-présidents du Conseil italien, et enfin celle de Giuseppe Conte, le chef du gouvernement italien. Alors le budget italien donc prévoit une forte augmentation de la dépense publique, mais au fond c'est pas vraiment une surprise. Francesco Saraceno, le mouvement 5 étoiles et la Ligue ne font qu'appliquer leur programme.
Oui, non, c'est absolument pas une surprise. Ils avaient fait la campagne électorale par ailleurs sur deux bords complètement opposés. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a des difficultés entre les deux partenaires. Mais les deux avaient un point en commun, c'était de dire basta à l'austérité, à l'orthodoxie budgétaire que la Commission avait imposée, à leur dire, à tous les gouvernements successifs qui s'étaient depuis le début de la crise. Donc non, il n'y a pas de surprise sur le fait que leur loi de budget soit différente que celle des gouvernements qui la précède. Et moi, par ailleurs, ayant été un adversaire de l'austérité par le passé, je ne suis pas tellement choqué par les changements de cap. Je crois qu'on y reviendra sur ça. C'est plutôt sur la qualité de la manœuvre qu'il faut s'interroger.
Alors peut-être qu'il faut d'abord expliquer en quoi consiste ce projet de budget et comment il est aujourd'hui justifié par les dirigeants italiens, Léni Benbara. Qu'est-ce qu'il permet, notamment en termes de redistribution?
Alors dans ce budget, il y a des choses assez différentes. Donc je partage l'interrogation sur la dimension qualitative du budget, puisqu'on a en fait des mesures qui sont pas forcément toutes cohérentes entre elles. On a d'une part le gel de l'augmentation de la TVA qui avait été prévue, qui représente un surcoût de 12,5 milliards. Donc celle-ci avait été décidée par les précédents gouvernements pour faire face précisément aux engagements budgétaires du gouvernement. Il y a d'autre part le revenu de citoyenneté et les pensions minimum à 780 euros par mois. Donc il faut rappeler qu'en ce qui concerne le revenu de citoyenneté, l'idée est de mettre en place un revenu de 780 euros par mois qui sera modulable en fonction des situations individuelles, conditionné effectivement à une recherche d'emploi qui pourrait durer 2 ans. Et les individus qui en bénéficieront seront notamment obligés d'accepter un emploi considéré comme raisonnable, donc c'est-à-dire pas trop loin de chez eux. Donc ils pourront refuser 2 emplois, mais ils ne pourront pas en refuser plus de 3.
Yves Bersensini, quel premier regard portez-vous sur ce budget? Est-ce qu'il n'y a pas une légitimité autour des difficultés qui ont été portées pour les Italiens en termes d'austérité? Est-ce qu'on ne comprend pas aujourd'hui un budget qui est dit expansionniste?
Les Italiens, il faut le dire, en effet, ont connu une phase d'austérité que, par exemple, la France n'a jamais connue. Dans les années précédentes, ils ont, parce qu'ils souffrent d'une dette, une énorme dette, qui ne date pas des 10 dernières années, hein, qui date plutôt des années 80-90, qui d'ailleurs est lié...
131% du PIB.
On pourrait le dire, si on veut être polémique, à l'ancienne classe politique. Bon, les Italiens ont dû dégager d'énormes excédents primaires, et pour autant, ils n'ont pas réussi à réduire le poids de cette dette. Et d'ailleurs, il aurait fallu, et il faudrait, une initiative européenne à ce niveau-là, pour essayer de traiter ensemble les vieilles dettes. Bon, maintenant... Ils avaient pris une trajectoire qui leur permettait de dégager des marges de manœuvre. Il y a une alternance démocratique. Il est normal, quand il y a une alternance, il y ait des ajustements. La difficulté, c'est que cette alternance, qui n'était pas attendue, consiste en l'alliance de la Lega et des 5 étoiles, qui s'étaient beaucoup combattues pendant la campagne. Ils s'allient. Mais si on regarde les choses du point de vue budgétaire, c'est quand même l'alliance de la carpe dépensière, la 5 étoiles veulent dépenser, et du lapin anti-taxe. Parce que la Lega, à la base, c'est quand même un parti du Nord, petit patron, à la base, je dis bien, moins il y a d'impôts, mieux ça va. Alors, quand on cumule ces deux choses-là, on arrive à une situation de déficit annoncé qui est quand même assez inquiétante. Et comme l'a dit Luigi Di Maio dans le premier son, c'est d'abord les marchés qu'il va falloir convaincre de la viabilité de ces choix. Sur la durée, parce que ce n'est pas l'Union européenne qui finance les dettes, et la dette italienne est énorme. En théorie, ce sont les marchés financiers. Et de l'autre côté, il y aura un débat politique dont on va parler, bien sûr, avec les partenaires européens d'Italie, pas seulement la Commission, les partenaires européens de l'Italie, parce que l'Italie, en tant qu'État, a pris des engagements, comme tous les autres, que normalement elle est tenue de respecter.
On va parler de la réaction possible des marchés, en effet, et aussi de la réaction de l'Europe. Mais d'abord, pour vous, Francesco Saraceno, est-ce que on peut dire que ce sont les politiques d'austérité, en accord avec les règles budgétaires européennes, qui ont conduit l'Italie dans l'impasse dans laquelle elle est aujourd'hui, et cela depuis, disons, une vingtaine d'années?
Ben non, ça serait trop réducteur. C'est un peu la thèse de partis au gouvernement aujourd'hui, que tous nos problèmes dérivent de l'austérité, et on arrive jusqu'à dire que c'est l'euro qui est la cause de tous nos problèmes. Moi, je ne pense pas que ce soit le cas. Je pense que l'Italie a un problème de croissance qui date de long terme, mais c'est un problème de croissance qui est très compliqué à analyser. Même avant de trouver des solutions, il faudrait comprendre exactement d'où vient ce manque de croissance italienne. Il y a un problème de productivité, mais qui n'est pas uniforme sur le territoire, parce qu'il y a des parties de l'Italie où il y a beaucoup de productivité et beaucoup d'innovation. Donc c'est un mélange de facteurs qui ne peut pas être réduit à l'euro ou à l'austérité. Ceci dit, l'Italie a beaucoup souffert depuis 2010 des politiques qu'on a menées, qui ont été de quelque manière imposées par l'Union européenne sous cette dictature des marchés présumés, parce que finalement, les marchés sont beaucoup plus intelligents de ce qu'on les fait. Donc si les marchés voient des politiques qui sont ciblées pour la croissance, bon, ils sont tout à fait capables d'accepter même des déficits qui augmentent. Donc vous voyez, ces politiques qu'on a mis en place depuis 2010 ont effectivement terminé d'étouffer notre économie, et aujourd'hui on est dans une situation où tout changement est bienvenu et appuyé. Il faut dire que ce gouvernement, en dépit du fait qu'il n'a pas fait grand-chose depuis juin dernier, a énormément de popularité, beaucoup plus qu'il n'en avait en mai. Donc c'est-à-dire que les deux partis, surtout la Ligue, mais aussi les 5 étoiles, ont un consensus dans la population qui aujourd'hui frôle les 60%. Donc c'est clair qu'ils ont toute la légitimité pour faire ce qu'ils font.
Alors ce déficit à 2,4% du PIB, je le disais, reste inférieur aux 3% demandé par Maastricht. Il est également inférieur au déficit annoncé par la France, qui est à 2,8%. Alors, comment comprendre cette réaction européenne qui a demandé à l'Italie des explications sur son budget, Yves Bertoncini?
On peut la comprendre, en tout cas l'analyser, à l'aune des engagements qui ont été pris. La France était sous procédure de déficit excessif les 10 dernières années quasiment. Elle n'est pas allée en dessous des 3%. La France est en train de prendre des engagements, a pris des engagements, a renouvelé les engagements pour aller en dessous. Donc elle est sur une trajectoire qui lui permet, en théorie, si tout va bien, de rentrer dans les clous. Il y a beaucoup de doutes sur le budget en cours. Et donc la France sort d'une procédure de surveillance et est considérée comme enfin, dans les clous. L'Italie, c'est tout à fait autre chose, puisque c'est un pays qui avait fait beaucoup, beaucoup d'efforts dans les dernières périodes, de l'austérité en effet, et qui d'un seul coup, et de manière assez brutale, passe d'engagement, il y a quand même une continuité de l'État dans la relation internationale, d'engagement de déficit à 0,8 à 2,4, excusez du peu, sachant que 2,4 c'est en fonction d'hypothèses de croissance qui restent à vérifier, donc ça peut être encore un peu plus. Ce qu'il faut aussi ajouter, si on veut décrypter la réaction européenne, c'est que au-delà des fameux 3%, le totem des 3% qui date du traité de Maastricht, 3% et même 60% de dette publique. Ça a été consolidé au moment d'Amsterdam, donc il y a 20 ans environ. Le 3%, c'est il y a 20 ans qu'on l'a mis dans forme de pacte de stabilité. J'observe au passage que l'application de ces règles a été toujours extrêmement, extrêmement, extrêmement flexible, parce que la France, en 20 ans, est allée 8 fois seulement en dessous des 3%. L'Italie, en termes de dette, elle est à 130. Enfin, voilà. Mais au-delà, suite à la crise de la zone euro, il y a eu des réajustements de règles et une forme de durcissement. Et donc, il faut plus. Les Européens ne regardent plus seulement le 3% nominal, ils regardent aussi ce qu'on appelle le déficit structurel. Et dans une mesure comme celle-là, l'Italie est en train de sortir encore plus brutalement des clous. Et c'est pour ça qu'il y a une réaction négative qui n'est pas, encore une fois, que la réaction de la Commission européenne. J'ai entendu ce matin Sébastien Kurz, le chancelier allemand, le chancelier autrichien, qui n'est pas un europhile béat, bien au contraire, il est quand même en alliance avec l'extrême droite, qui a dit que ça n'allait pas et que les Italiens devaient retrouver leurs esprits sur ce registre.
Léni Ben Barra, l'argument de Luigi Di Maio et de Matteo Salvini, c'est que ce budget devrait permettre de relancer la croissance italienne. Alors les avis divergent sur ce point, mais ce qui est reproché à ce budget, c'est cela, c'est que ça ne permettrait pas de financer un plan d'investissement dans les infrastructures qui serait nécessaire.
Alors, il y a un volet investissement dans le plan qui est présenté par la coalition au pouvoir. Juge personnellement qu'il est effectivement insuffisant et je pense que c'est un avis qui est assez largement partagé. Ce serait environ 3,5 milliards pour 2019, puis 5 milliards en 2020 et 6,5 milliards en 2021. C'est-à-dire que ça va être un plan en fait qui va être concentré essentiellement dans la remise à niveau des infrastructures. On a vu avec l'affaire du pont de Gênes que c'était un enjeu qui était perçu comme étant fondamental aujourd'hui en Italie et d'autres investissements à la fois dans les nouvelles technologies, ce qui tient beaucoup à cœur au mouvement 5 étoiles par exemple, mais aussi dans divers domaines. Mais effectivement, il y a des interrogations sur le niveau du multiplicateur utilisé pour estimer l'impact sur la croissance. Il y a le bureau l'Ufficio Parlamentare qui a critiqué les prévisions du gouvernement. Donc c'est un bureau d'évaluation indépendant lié au Parlement italien et qui considère que les prévisions sur le multiplicateur sont de 1, et tandis que Giovanni Tria a répondu que leur estimation était celle d'un multiplicateur budgétaire de 0,5. Donc on voit que là il y a des débats techniques, donc on va, je vais peut-être pas rentrer dans l'explication sur ce qu'est exactement le multiplicateur budgétaire, mais il y a effectivement de l'incertitude autour de l'impact que cela va avoir sur la croissance italienne. Et je vais laisser la parole à
Francesco Saraceno. Est-ce que, pour le dire simplement, on peut dire qu'on a mis l'argent au bon endroit dans ce budget?
Non, mais c'est exactement ça. Je pense que sur ça, on est tous du même avis. Donc, le risque n'est pas d'y avoir trop de débats. Et c'est exactement ça, les problèmes. Moi, je ne suis pas du tout choqué par une augmentation du déficit nominal. Je ne suis même pas trop choqué par une augmentation, que c'est vraiment la cause de problèmes avec la Commission, du déficit dit structurel, celui dont on élimine la partie liée au cycle, donc c'est celui qui montre vraiment quel est l'effort de long terme du gouvernement. Ça me va très bien qu'il le fasse, parce que je répète, il y a peut-être c'était nécessaire. Le problème, c'est que tout ça reste soutenable en dépit d'une très grande, d'une dette très élevée, seulement si ça mène à de la croissance. Et c'est là où on rentre, en rentrant dans les détails des mesures annoncées, le gouvernement lui-même, il a sorti un tableau dans leur document où on montre que ces multiplicateurs, c'est-à-dire l'impact que va avoir et que vont avoir les différentes mesures sur la croissance, est très limité. Mais quand je dis très limité, c'est presque du gâchis d'argent. Il y a par exemple la réduction des impôts là, cette espèce de version un peu hybride de la flat tax qu'il y a aussi dans, qui tenait à cœur à la Ligue. Ils disent que l'impact de, les gouvernements lui-même, il dit que l'impact sur les déficits sera zéro. Et sur, pardon, sur la croissance sera zéro. Donc, il n'y a
flat tax dont on ne sait pas si elle va véritablement exister, parce qu'elle fait l'objet de tensions entre Luigi Di Maio et Matteo Salvini.
Taux, donc c'est une flat, c'est une quasi flat. Et alors, le seul volet qui a un multiplicateur, c'est-à-dire qui a un impact sur la croissance certain, est assez élevé, même dans les prévisions du gouvernement, c'est justement l'investissement. Et je partage totalement l'avis qu'il n'y a pas suffisamment d'argent qui est mis sur ça. Donc, je répète, le problème, ce n'est pas tellement les changements de cap sur les finances publiques, c'est l'utilisation qu'on fait de cet argent qui laisse beaucoup de gens, même ceux qui ne sont pas trop orthodoxes au niveau budgétaire, un peu revers, parce qu'on ne voit pas d'où viendra la croissance.
Léni Benbara,
si je peux me permettre, ce changement de cap, il n'est pas si fort que ça d'ailleurs. Il faut rappeler que, Yves Tontini l'a dit tout à l'heure, l'Italie génère des excédents primaires depuis 20 ans, c'est-à-dire que l'État italien, avant de paiement des intérêts de la dette, ponctionne plus sur l'économie qu'il ne donne à l'économie. Donc ça, ça a des effets récessifs très clairs. Je ne sais pas exactement quelle va être l'excédent, la nature du solde primaire en Italie avec l'application de ce budget, mais c'est ça qui a des effets récessifs sur l'économie italienne et qui l'a détruit depuis 20 ans, depuis en réalité son entrée dans la zone euro, parce que là j'aurais des légers désaccords, mais si je vous donne l'exemple de Cottarelli qui avait fait parler de lui au mois de juin, même quelqu'un comme lui considère que l'Italie n'était pas, l'économie italienne n'était pas adaptée à la zone euro au moment de son entrée. Et après, la question qui se pose, c'est qu'est-ce que doit faire l'Italie dans un contexte où elle est intégrée à une union monétaire qui ne lui permet pas de répondre à ses défis structurels.
La question, c'est moins le problème, Yves Bertoncini, c'est moins que l'Italie augmente ses déficits plutôt qu'elle ne mette pas, justement, comme on le dit, l'argent au bon endroit pour relancer son économie.
Oui, je crois que là-dessus, on est relativement d'accord. L'Union européenne, d'ailleurs, met aussi de l'argent sur les infrastructures. Il y a des fonds structurels et de cohésion, ça existe depuis longtemps. C'est utilisé plus ou moins à bon escient, notamment dans le sud de l'Italie. Qu'il y ait dans cette économie des points faibles qu'il faut traiter avec de l'argent européen national, c'est sûr. C'est en train d'être fait, mais il faut voir. Il y a quand même des ressources, il faut le dire. L'économie italienne est une économie qui a des ressources, un tissu industriel en particulier. Maintenant, dans un contexte comme celui-là, ce qu'il va vraiment falloir surveiller, c'est la confiance accordée à ceux qui doivent financer l'Italie. L'Italie, c'est pas n'importe quel pays, c'est un grand pays et qui a une dette de 130% de son PIB. Seule la Grèce fait pire, sachant que la Grèce, c'est quand même des sommes beaucoup plus petites. Mais on parle de l'Union européenne. Et donc, dans l'Union européenne et dans l'Union monétaire européenne, puisque vous venez d'en parler, c'est quand même un pays qui peut subir, et c'est déjà le cas, une forme de surveillance de la part des marchés. Ce qu'on appelle le spread, c'est-à-dire le différentiel entre le taux allemand et le taux italien, est déjà monté à 330-340. Bon, il est à 3,7, 3,8 pour l'instant. Donc, c'est cher tout ça. Ça veut dire que plus les marchés financiers ont des doutes, plus ils feront payer cher le refinancement de cette énorme dette, et plus les marges de manœuvre qu'essaient de se dégager les autorités italiennes seront réduites. Et il faut évidemment surveiller cela, parce que d'abord, ça serait très mauvais pour l'Italie si les marchés financiers commencent à l'étrangler comme jadis la Grèce, l'Irlande, le Portugal et Chypre ont été étranglés. Et puis, bien sûr, ça aurait des conséquences pour toute l'Union européenne et l'Union monétaire européenne, puisque ça ferait peser un doute sur la capacité des pays de la zone euro de réagir, de venir au secours de l'Italie. C'est pour ça que le chancelier autrichien Sébastien Kurz a dit « ça nous concerne, nous aussi, Européens, au-delà même des règles, etc. » Ça nous concerne parce que l'impact négatif potentiel rejaillirait sur nous.
Ce risque, sur ce risque de contagion, Francesco Saraceno, et aussi sur le fait peut-être que l'Europe remet entre les mains des marchés la responsabilité, en quelque sorte, de sanctionner ce budget italien.
Mais ça, moi, je ne le trouve pas du tout scandaleux qu'il y ait cette responsabilité, parce qu'on est dans une économie de marché. C'est absolument normal que tous les acteurs se financent sur les marchés et les marchés ont la liberté de décider si et comment ils veulent financer un acteur, qu'il soit privé ou public, qui veut s'endetter.
Donc, mais l'Europe a plutôt intérêt à laisser faire les marchés plutôt que de se mettre en avant dans une confrontation avec l'Italie.
Ce n'est même pas une question de laisser faire les marchés, c'est plutôt il faut qu'il y ait, on revient toujours au même discours, il faut qu'il y ait un programme crédible du gouvernement. Si le gouvernement est crédible dans ses engagements, qu'il soit dans la continuité ou pas avec le passé, les marchés ne vont pas les punir. Ça, c'est sûr. Donc aujourd'hui, ce que signalent les marchés, c'est bon, un peu d'incertitude, parce qu'on ne sait pas trop si ce clash avec les instances européennes et les autres pays partenaires va aboutir finalement à un scénario catastrophe comme une sortie. Donc ça, c'est clairement un peu une source d'inquiétude. Mais surtout, les marchés ne voient pas dans l'effort qui fait le gouvernement, la croissance dont on aurait besoin. Donc on revient toujours au même discours qu'on faisait avant. Donc moi je ne m'inquiète pas du spread tant que la manœuvre est crédible et bonne. Parce que le spread, on peut le contrôler par ailleurs. C'est la Banque Centrale Européenne qui aujourd'hui a mis une espèce de parapluie qui nous protège un tout petit peu. Donc il suffit d'ajuster un tout petit peu ce parapluie qui existe déjà pour que le spread à court terme ne devienne pas un problème. C'est-à-dire que c'est la Banque Centrale finalement qui s'engage à tenir les taux d'intérêt suffisamment bas. Le problème, c'est que dans la durée, ça ne peut pas durer. Donc, dans la durée, il faut que les marchés regagnent la confiance. Et aujourd'hui, c'est clair qu'il n'y a pas la confiance des marchés vis-à-vis du gouvernement italien.
Et alors, quelle doit être justement la réponse de l'Europe? Et est-ce que l'Europe craint qu'en cédant avec l'Italie, d'autres pays se mettent à leur tour à remettre en cause et en question les règles budgétaires, Leni Ben Barra?
Je pense que c'est déjà en partie le cas. On voit qu'il y a un revirement, en tout cas sensible, en Espagne aussi, avec le projet budgétaire qui a été proposé par Podemos et le PSOE, notamment qui comporte notamment des augmentations du salaire minimum et des éléments de relance.
C'est projet budget clairement anti-austérité.
Je ne connais pas exactement le niveau du déficit qui compte obtenir à la fin de cette loi de finances, mais il faudrait regarder. C'est le cas aussi au Portugal où il y avait eu des tensions avec l'Union européenne liées à la construction du budget de la coalition portugaise.
Justement, arrêtons-nous un petit peu sur l'exemple portugais. Qu'est-ce que nous apprend cet exemple qui, on voit qu'au Portugal, depuis l'arrivée au pouvoir des socialistes en 2015, qui ont donc refusé l'austérité, l'économie portugaise est largement repartie. L'année dernière, elle était à 2,7%. Okay. Oui. Est-ce que l'exemple portugais pourrait être appliqué ailleurs?
Il est assez spécifique parce que la relance portugaise, elle est quand même le fruit à la fois d'une croissance fondée sur l'amélioration de la compétitivité externe, donc liée à des années d'austérité, donc à un redémarrage des exportations. Elle est liée aussi fortement au tourisme, à l'accueil aussi, à des dispositions favorables pour les personnes qui viendraient résider au Portugal, donc avec notamment des dispositifs d'exonération d'impôts.
Donc il faut détailler un petit peu la croissance.
Oui, je pense qu'il est assez spécifique. Il faut voir ce que va donner en Espagne l'expérience actuelle. D'ailleurs, elle n'est même pas pérenne. Je pense que effectivement, il y a une remise en cause progressive des règles budgétaires européennes. Rien ne dit qu'elles vont tenir. Et l'Italie est en réalité le point le plus chaud et avec une dette qui est insoutenable et qui devrait être rediscutée au niveau européen, mais je crois qu'Yves Bertoncini l'avait suggéré.
Ça place en tout cas la Commission européenne dans une position compliquée. Yves Bertoncini, selon vous, quelle doit et quelle peut être cette réaction, sa réaction face à ce budget italien?
La Commission européenne et les autres États membres, parce que j'y insiste, il y a quand même eu et il y a toujours beaucoup de divisions entre les peuples. Parce que c'est bien beau de dire d'un côté il y a le budget du peuple et de l'autre côté il y a les méchants comptables bruxellois. Je pense que le peuple allemand ou le peuple finlandais ou le peuple slovaque ne voit pas d'un très bon œil, j'ai oublié le peuple néerlandais, tiens, tenez, ne voit pas d'un très bon œil toutes ces dérives budgétaires parce que eux-mêmes tiennent leur budget depuis longtemps et qu'il y a eu des engagements souscrits par l'Italie, un pays qui s'appelle l'Italie. Et donc la Commission européenne, certes, fait la surveillance, mais elle va produire un avis qui devrait être endossé par les ministres et les chefs d'État et de gouvernement, même si le débat dégénère. Et donc il faut tenir compte de cela, il faut tenir compte du fait qu'il y a des sensibilités populaires différentes en Europe et que, pour faire court, les fourmis en ont marre de financer les cigales. Ou en tout cas, on en a marre que les cigales soit dépensières et ne respectent pas leurs engagements.
Bon, mais donc ça c'est quand même quelque chose.
Oui, mais il y avait un excédent budgétaire. Vous avez bien fait de le reconnaître.
C'est quand même.
Il va être envolé l'excédent budgétaire avec le projet de budget qui est là. Alors deuxièmement, l'Union européenne n'a que des coups à prendre de toute façon. Alors le pire c'était l'Europe FMI, c'est-à-dire les marchés qui se défient de quatre pays, donc la Grèce, l'Irlande, le Portugal et Chypre. L'Union européenne et le FMI qui sont obligés de venir au secours de ces pays, sauf que en contrepartie de l'aide financière, précisément parce qu'elle n'était pas acceptée par certains peuples de l'Union européenne, eh bien, ils mettent en place une logique de conditionnalité et des purges, littéralement, qui ont été coûteuses économiquement, socialement et même politiquement dans les pays en question.
Donc l'Europe a tiré des leçons de ces épisodes ?
Alors, c'est pour ça que l'Europe a tiré des leçons, je l'espère, que l'exemple portugais est intéressant. Parce qu'il ne faut pas non plus mythifier l'exemple portugais. La purge qu'a connue le Portugal était sans doute brutale, excessive, etc. Mais quand le gouvernement de gauche est revenu au pouvoir, il n'a pas du tout fait table rase. Il a ajusté. Et d'une certaine manière, il a consolidé une situation. Et à ce moment-là, il a effectivement pu lâcher un peu du lest parce que son peuple n'en pouvait plus et parce que c'était possible, y compris du point de vue des investisseurs. Le Portugal est revenu se financer sur les marchés. L'Italie, ce n'est pas ce cas de figure-là. L'Italie, c'est un pays qui a fait des efforts budgétaires depuis longtemps et donc il y a une forme de lassitude qui traîne cette vieille dette. Et c'est là, en effet, que l'Union européenne devrait lancer une initiative. On avait parlé de fonds de rédemption à un moment, c'est-à-dire mettons en commun la vieille dette, finançons-la entre nous, mais en contrepartie, tenons les déficits un peu mieux. Donc l'Italie choisit un nouveau gouvernement qui décide de lâcher la bride. Si les résultats sont là, économiquement et socialement, comme au Portugal, et financièrement, les marchés ne trouveront pas grand-chose à y redire. Et peut-être qu'à Bruxelles, certains orthodoxes seront un peu meurtris et déçus. Mais tout dépendra, puisque maintenant, les résultats ne vont pas venir du jour au lendemain, du débat qui va avoir lieu au cours des prochaines semaines et des prochains mois. Et si ce débat est conduit, non pas seulement sur le fond, mais sur la forme, avec des rotomontades du style « le peuple italien a parlé et les comptables bruxellois nous ennuient », il va dégénérer, malheureusement.
On va en parler.
And that ain't funny. Millionaires are things of the past. We're in a low budget film where nothing can last. Money is rare, there's none to be found. So don't think that I'm tight if I don't buy.
Écoutez France Culture, entendez-vous l'écho, Tiffaine de Rocchini.
C'était Low Budget des Kinks. On parle du budget italien et de ses possibles conséquences économiques et politiques en Europe avec Francesco Saraceno, Yves Bertoncini et Leni Benbara. Francesco Saraceno, vous souhaitiez revenir sur les limites du parallèle entre le Portugal et l'Italie.
Moi, en fait, je partage ce qu'on a dit avant, c'est-à-dire que le Portugal a fait au bon moment, ils ont changé de cap, et surtout en faisant très attention à la redistribution des revenus. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas encore mentionné aujourd'hui, c'est que dans tous les pays avancés, et en particulier en Europe, il y a eu une augmentation des inégalités qui a aussi affaibli l'économie et par ailleurs nourrit le populisme et le revanchisme. Et donc, l'effort qu'a fait le Portugal dans un cadre qui était un cadre qui restait encore une fois plutôt modéré du point de vue budgétaire a été un effort de redistribution qui a été très populaire et B a consolidé la capacité des Portugais de dépenser, de consommer, tout ça. Et il y a aussi une autre très grosse différence par rapport à l'Italie, c'est que le Portugal a fait tout ça en contraposition, parce qu'il y a eu des problèmes aussi entre le Portugal, les institutions européennes et les pairs, mais dans les respects. Et moi, je pense que ça a été une bonne stratégie, parce qu'ils ont fait, un travail de persuasion et de conviction vis-à-vis de leurs partenaires, qui du coup ont finalement accepté ces changements de cap, et aujourd'hui, ils en récoltent les fruits. L'attitude violente et presque, il y a presque du chantage là. Il y a sous-entendu toujours l'idée, attention, on va sortir de l'euro et on va faire tomber la baraque.
Et on va entendre Eddie Benbara là-dessus. L'Italie a tort d'aller au rapport de force avec la Commission.
Alors, sur le Portugal, il ne faut quand même pas oublier qu'ils avaient failli être éjectés du QE. Donc, c'était pas non plus.
Il faut rappeler ce que c'est que le QE, le quantitative easing.
Voilà, c'était pas non plus tout à fait calme et tranquille. Mais après, je pense qu'effectivement, le style de Salvini et de Luigi Di Maio est un peu différent de celui du gouvernement portugais, qui était un gouvernement social. Démocrate soutenu de façon externe par le Bloco de Esquerda et en partie par le Parti communiste portugais. Mais il ne faut pas non plus considérer que ça s'est fait de façon apaisée. En ce qui concerne l'Italie, moi, je pense qu'il y a une question qui a été soulevée depuis tout à l'heure, qui est la question de est-ce que les marchés vont sanctionner l'Italie ? Bon, la question que j'aimerais poser, c'est plutôt pourquoi on continue à accepter que ce soit les marchés qui valident les programmes politiques des gouvernements nationaux ? On a quand même un problème clé, qui est que désormais, le cadre des politiques budgétaires est fortement contraint par la réaction des marchés, par ce qu'ils anticipent. D'ailleurs, je suis pas sûr qu'ils soient tout à fait rationnels quant aux perspectives de croissance. Il faut rappeler que sur le Portugal, les anticipations des marchés étaient assez catastrophiques en réalité et qu'elles se sont redressées face à l'amélioration de la situation, donc contre ce que les marchés prescrivaient. Donc, la question, au bout d'un moment, c'est est-ce qu'on considère que le juge de paix, est-ce qu'on considère que c'est normal dans un système démocratique que les marchés financiers sanctionnent les gouvernements et soient juge de paix des politiques mises en place ?
Et on va poser la question à Yves Bertoncini. Est-ce que c'est normal que les marchés sanctionnent ainsi des politiques budgétaires ? Est-ce qu'il n'y a pas une dépendance trop importante à l'égard des marchés et aussi des agences de notation ? On sait qu'on attend de nouvelles notes de la dette souveraine italienne par Standard & Poor's et Moody's qui peuvent avoir les effets qu'on connaît.
Oui, mais la meilleure façon de ne pas trop dépendre des marchés, c'est de tenir ses comptes. La meilleure façon de ne pas trop dépendre des foucades de son banquier, c'est de ne pas multiplier les découverts, c'est de ne pas avoir de grandes dettes. Et donc, bien sûr qu'il faut avoir des dettes. Tous les pays du monde ont des dettes. Il y a des pays comme le Japon qui ont même une dette bien plus élevée que celle de l'Italie et de la Grèce. Simplement, d'abord, elle est détenue beaucoup par les Japonais. Et puis, il y a une forme de confiance et qui est nécessaire. Et quand cette denrée rare s'évapore, la confiance, quand elle le fait de manière souvent d'ailleurs totalement excessive, parce qu'effectivement les marchés sont très moutonniers. Hein, pendant 10 ans, les marchés, ils ont prêté à la Grèce comme si c'était l'Allemagne. Ils ne se sont pas rendus compte que c'était deux choses différentes. Donc les taux d'intérêt étaient presque similaires. Et puis d'un seul coup, il y a une défiance. L'épargne est rare hein, aujourd'hui. Les marchés ont plein de choix. Donc dès qu'ils arrivent, sur un pays où il y a un risque, ils se détournent. Et donc c'est compliqué. Et le mieux pour ne pas s'exposer à ce risque, c'est sur le fond d'avoir un programme économique, social, budgétaire jugé relativement fiable. Et puis sur la forme aussi, oui, ça joue la forme. Parce que on a vu la Grèce. Hein, il y a eu la période Varoufakis. Et puis après, il y a eu une période sans Varoufakis. C'était mieux après, parce que quand on est dans un club politique comme celui de l'Union européenne, quand on va aux réunions de l'Eurogroupe, on n'est pas obligé d'être d'accord. Il y a beaucoup de dissensions. Hein. Il y en a même entre les Français et les Allemands très souvent. Mais on peut se parler de manière constructive et civilisée.
Léni Benbara.
Alors, la dette grecque était déjà hors marché. Moi, je suis pas du tout d'accord avec ce que vous venez de dire sur le fait que la meilleure manière de ne pas être victime des marchés, c'est de tenir ses comptes. Non, on a vu la solution en Europe. Ça a été de mettre hors marché une partie de la dette avec le quantitative easing de la BCE qui a racheté par milliards et milliards la dette souveraine des États de l'Union économique et monétaire sur les marchés secondaires. Donc, on peut tout à fait imaginer étendre cette mise hors marché de la dette, notamment par des processus de fléchage de l'épargne, par des taux planchers d'effet public dans les banques, par ce qui consiste en fait à obliger les banques à détenir une partie de la dette souveraine. Les marchés, on peut faire des choses contre eux. Il faut arrêter de considérer que c'est des dieux qui vont nous punir si on ne fait pas les choses bien et que la seule solution, c'est de ne pas avoir de péché à se reprocher.
Et est-ce que Rome pourrait se retrouver dans une situation comparable à celle de la Grèce, justement, en 2009-2010, avec des taux d'intérêt si élevés qu'elle ne pourrait plus emprunter?
Il y a deux solutions. Donc, on en a parlé. Les taux d'intérêt, ils ont commencé à monter. On verra bien jusqu'où ils vont. Moi, je ne souhaite pas que les taux d'intérêt s'envolent et étranglent l'Italie. Ensuite, il y a l'alternative que vient d'évoquer Léni, c'est-à-dire Léni Benbara. C'est-à-dire, oui, à ce moment-là, des autorités publiques peuvent agir. La Banque Centrale Européenne a en effet agi. Les États membres de la zone euro ont agi, c'est-à-dire qu'ils ont fait des prêts, ils ont apporté des garanties. Le FMI a agi. Mais ça, c'est pas à n'importe quelle condition, hein. Il y a une conditionnalité extrêmement forte, hein. Donc, quand on perd sa solvabilité à un moment donné, eh ben, on perd une partie de sa souveraineté. Et puis, je dirais pour l'Union européenne, ça a des coûts politiques, mais de tous les côtés, c'est totalement contre-productif. C'est-à-dire qu'à la fois, les pays qui sont aidés, et si l'Italie devait l'être, ils le sont à de telles conditions qu'ils en conçoivent une amertume vraiment légitime. Mais de l'autre côté, il y a toute une série de peuples qui n'avaient pas envie de faire ça et qui ne sont pas contents non plus. Rappelons-nous qu'Alternative für Deutschland en Allemagne est née de ça, hein, le refus de la solidarité vis-à-vis de la Grèce et des autres. Donc, ce qu'il faut souhaiter vraiment pour l'Europe, pour l'Italie, c'est que malgré tout, le financement, et c'est quand même la norme, le financement sur les marchés puisse continuer à être assuré. Ceci étant, ça suppose d'engendrer une forme de confiance minimum. Et on verra, c'est mon souhait, si cette forme de confiance minimum demeure vis-à-vis de ce gouvernement italien.
Francesco Saraceno, est-ce qu'il ne faut pas aussi repenser, réformer ces règles budgétaires européennes qui sont, on le voit, de plus en plus contestées en Espagne, en Italie, comme on l'a cité? Et dans ce cas, comment est-ce qu'on pourrait repenser ces règles?
Je voudrais intervenir sur ce qu'on vient de dire, je comprends qu'il faut aller de l'avant. Donc, en deux mots sur les marchés, la dictature des marchés. Moi, je pense qu'au fond, si on vit dans une économie des marchés, il faut que les marchés financent librement et pas parce qu'ils sont obligés par des mesures plus ou moins coercitives ces financements. Donc, d'un côté, je partage l'opinion de M. Bertoncini. De l'autre, je pense aussi qu'on a des autorités publiques qui peuvent, quand les marchés font preuve d'irrationalité, et ça, sauf si on a un économiste à Chicago, je pense qu'on est tous d'accord que les marchés font souvent preuve d'irrationalité. Donc, et c'est là où les autorités publiques doivent intervenir, et je pense que ça a manqué pendant la crise, et du coup, c'est là, de là que vient le chantage des marchés.
Sur bon, cette réforme des règles,
réforme des règles très rapidement.
Européennes.
On est en train de finaliser une étude avec des collègues de l'OFC précisément sur ça. Et la conclusion est plutôt définitive. C'est-à-dire que ce qu'on conclut, nous, c'est que il est pratiquement impossible de dessiner des règles intelligentes. Vous vous souvenez que Romano Prodi avait défini le pacte de stabilité stupide, comme toutes les règles le sont. Et aujourd'hui, nous, avec un peu de retard, on est arrivé à la même conclusion. Ben, moi, j'ai toujours été opposé au pacte de stabilité et j'ai cherché des règles meilleures. Règles meilleures, c'est très difficile d'en trouver parce que les règles sont forcément trop simplistes. Et quand elles ne sont pas simplistes, elles sont inapplicables. Et je pense qu'on pourrait envisager de substituer les règles par une vraie coordination des politiques budgétaires au niveau européen. Et c'est pour ça que je pense qu'il faudrait... c'est ça à quoi devrait servir un ministre des Finances de la zone euro, à faire de la co-gestion des bilans dans le respect des prérogatives nationales, que c'est où la démocratie reste, parce que les élections sont au niveau national aujourd'hui.
Yves Bertoncini.
Oui, je serais assez d'accord avec cette idée des choix collectifs communs plutôt que des règles fixes. C'est une idée qu'a d'abord exprimée Jean-Paul Fitoussi, d'ailleurs, en France depuis très longtemps. Il avait fait un très bon livre, La règle plutôt que La règle, le choix. Voilà. Sauf que pour arriver à faire des choix collectifs, il faut un minimum d'entente et de consensus. Et je ne crois pas que l'arrivée du gouvernement italien nous entraîne dans cette direction, malheureusement. Les règles européennes, elles ont évolué. Quand Romano Prodi avait dit le pacte de stabilité est stupide, le commissaire européen portugais de l'époque, Antonio Vitorino, lui avait répondu non, c'est le pacte de stupidité qui est stable. C'est l'inverse. Sauf que c'est pas vrai, il a pas été stable. On l'a modifié. D'abord, on l'a appliqué de manière très 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 flexible. Et deuxièmement, on l'a ajusté au moment de la crise. On l'a plutôt durci. En effet, c'est pour ça que l'Italie, même si elle reste sous les 3%, risque d'avoir des récriminations bruxelloises, berlinoises, etc., etc.
Et justement, qu'est-ce qu'elle risque ?
Alors moi, elle risque juridiquement au début des sanctions et même. Et même des sanctions financières, si on regarde comme la façon dont les règles sont édictées. Simplement, c'est contre-productif. Un pays qui irait mal, on le sanctionne financièrement, il irait encore plus mal, et c'est contre-productif politiquement. Alors moi, j'en suis arrivé à la conclusion, après ces 20 ans d'expérience, qu'il vaudrait mieux, et un think tank comme Bruegel le dit, au niveau bruxellois, il vaudrait mieux arrêter avec tout ça, en effet, laisser les États se financer sur les marchés, voir comment les marchés... s'en occupe ou s'en occupe pas, les finances à tel ou tel prix, et organiser une chose au niveau européen, qu'on avait dû organiser dans la catastrophe pour la Grèce et l'Irlande, et bien organiser la façon dont, si vraiment les États sont étranglés par les marchés, alors à ce moment-là, on organise leur sauvetage, mais à quelles conditions?
Ça, c'est le mécanisme européen de stabilité.
Voilà, et à ce moment-là, on organise leur sauvetage, mais à des conditions très précises, en souhaitant que jamais ils n'aient à se retrouver dans cette situation. Mais enfin, on leur lâche la bride sur le coup, à eux de se débrouiller. Simplement, le sauvetage qui était jusqu'ici exclu. Parce que le traité de Maastricht disait il n'y aura pas de sauvetage. Parce qu'il y a un aléa moral, on ne va pas vous sauver. On vous encadre un peu, mais on ne va pas vous sauver. La nécessité a voulu que le sauvetage ait lieu, parce qu'on n'a pas pu laisser 4 pays faire faillite, et donc le sauvetage maintenant, dans son principe, est admis. Donc il faudrait peut-être mieux se concentrer sur la façon dont il aurait lieu, de manière peut-être plus intelligente, moins brutale, et couper toute cette surveillance mensuelle, trimestrielle, semestrielle, qui est contre-productive politiquement.
Léni Ben Barra, d'un mot, parce qu'on arrive presque au terme de cette émission, peut-on alors et doit-on réformer ces règles budgétaires européennes, sachant qu'en l'occurrence, les autorités italiennes parient sur un raz-de-marée souverainiste aux élections européennes de mai, pour justement qu'un changement des règles budgétaires intervienne?
Je crois aussi que ces règles sont pas réellement pertinentes. C'est quand même absurde de fixer un seuil de 3% pour l'ensemble des pays européens quand on sait qu'ils ont des structures économiques, démographiques, sociales complètement différentes. Si on prend par exemple l'Allemagne qui a environ 1,5 enfant par femme en âge de procréer et donc une population qui vieillit très vite, l'Allemagne n'a pas les mêmes besoins en investissement public, dans les écoles, dans la formation, dans l'éducation que l'a la France qui a environ 2 enfants par femme en âge de procréer. Donc il faut voir qu'en fonction des structures dans lesquelles on est, on va avoir une politique budgétaire différente. Vouloir harmoniser la politique budgétaire, c'est aller contre en fait une forme de rationalité économique qui permettrait de répondre aux défis, et je pense notamment aux défis écologiques aujourd'hui, qui est un défi qui monte très fortement et qui doit appeler à une rediscussion des règles budgétaires, parce que celles-ci sont incohérentes avec les objectifs de l'accord de Paris, et on peut pas continuer dans ce sens-là si on veut y répondre.
Merci beaucoup à tous les trois. C'est la fin de cette discussion. Yves Bertoncini, président du mouvement Européen France, Léni Benbara, directeur de la publication du média en ligne Le Vent se lève, et Francesco Saraceno, directeur adjoint de l'OFCE. Je rappelle votre livre, L'économie à l'épreuve des faits, paru chez RB Éditions. Il est presque 14h45 sur France Culture et c'est l'heure de retrouver la bibliothèque idéale de l'écho. Une fois n'est pas coutume, nous avons choisi un ouvrage non traduit pour garnir les rayons de notre bibliothèque, Expectations in Economics, les anticipations en économie de George L.S. Shackle, un ouvrage paru en 1949 dans lequel Shackle s'intéresse au rôle de l'incertitude en économie. Et pour nous éclairer sur la pensée de cet économiste anglais, nous avons invité Jacques Sapir. Bonjour.
Bonjour.
Et merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes économiste, directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales et auteur de nombreux ouvrages, parmi lesquels on peut citer La fin de l'euro-libéralisme et le nouveau 21e siècle, tous deux parus au Seuil. Alors pour commencer, en quoi cet ouvrage est-il fondateur, selon vous, de l'hétérodoxie en économie, Jacques Sapir ?
Alors, l'ouvrage de Shackle, qui est quelqu'un qui a été à la fois l'étudiant de Hayek avec qui il rédige sa thèse, et l'étudiant de Keynes, il est passé de Hayek à Keynes, cet ouvrage insiste effectivement sur l'incertitude fondamentale qui règne dans nos sociétés, mais aussi sur l'importance du temps, le fait que quand une décision est prise, elle est prise sur des anticipations, d'où d'ailleurs le titre, Expectations in Economics, on anticipe un résultat de son action, mais on ne connaît pas le résultat de son action, et on va ajuster ses comportements ex post, une fois que l'action aura eu lieu et qu'elle se sera dénouée. Donc à partir de là, cela ouvre la porte à toute la dimension de l'imagination, qu'est-ce que l'on imagine du futur, mais aussi à quel point peut-on être surpris. Donc vous voyez, ça brasse tout ce genre de questions.
On va expliquer tous ces concepts l'un après l'autre, mais d'abord, effectivement, le concept phare de Keynes, la notion d'incertitude véritable, a été introduit pour la première fois de façon explicite par l'économiste Frank Knight dans son ouvrage Risk, Uncertainty and Profit, paru en 1921. Alors, quel va être l'apport de Shackle ? En quoi l'avenir est-il radicalement incertain, selon lui ?
Alors d'abord, il faut préciser que Frank Knight écrit un livre qui est très connu par les économistes, mais qu'il a été d'une certaine manière anticipé par la thèse même de Keynes. Keynes, et on l'oublie trop souvent, il a écrit une thèse en mathématiques sur la question des probabilités. Et c'est là où il dit, mais il y a des choses qui ne sont pas probabilisables, il y a des choses qui relèvent purement de l'incertitude. Alors, là où Shackle développe l'idée de ses prédécesseurs, c'est quand il dit « cette incertitude, il faut la concevoir au travers du temps », c'est-à-dire le fait que eh bien, nous ne sommes pas les mêmes entre le moment où nous décidons d'une action et le moment où nous l'exécutons, ni bien sûr au moment où nous en recevons les fruits. Donc ça, c'est un premier point. Et puis surtout, dit-il, il est extrêmement différent de se dire « voilà, il y a une chose qui me paraît plus probable qu'une autre ». Bon. Si c'est la chose que j'avais considérée moins probable qui survient, je suis surpris, mais finalement pas tant que ça, puisque je n'avais pas exclu cette chose de la carte des possibles. Mais si survient une chose que je n'avais pas prévue du tout, alors ça pose le problème de est-ce que mon raisonnement était le bon ? Et à ce moment-là, dit-il, c'est extrêmement important pour les agents économiques parce qu'ils cessent d'agir. Et ça a immédiatement des conséquences très importantes. Quand un agent économique cesse d'agir, il se réfugie dans la liquidité, dans la monnaie, dans le cash, et de ce point de vue-là, on voit s'effondrer l'investissement. Et c'est très exactement ce qui survient dans chaque crise. Et le point encore où, d'une certaine manière, Shackle apporte son grain de sel, et un grain de sel qui est extrêmement important, c'est qu'il dit, c'est ce que nous espérons qui guide nos actions. Et ça, ça jette les bases, en fait, d'une théorie de la décision humaine.
En quoi est-ce que Shackle a-t-il également été influencé par l'économiste suédois Gunnar Myrdal ?
Alors, Myrdal a cette idée qui est extrêmement importante. Il dit, voilà, on ne peut pas exclure le temps du raisonnement économique. Alors, bien sûr, les économistes de l'époque, ce qu'on appelle les économistes néoclassiques, ils résolvent cette question de manière extrêmement simple. Pour eux, ils disent, le temps, c'est un taux d'intérêt. grosso modo, je donne un certain taux d'intérêt à toutes mes actions. Alors, le taux d'intérêt peut être différent. Et ça me permet de rendre compte, en fait, de l'écoulement du temps. Mirna dit, non, c'est pas du tout ça. Il faut vraiment considérer l'état avant l'action et l'état après l'action. Ce qu'il appelle le temps ex ante et le temps ex poste.
C'est d'ailleurs ces théories de Myrdal qui vont permettre à Shackle de mettre au point son fameux paradoxe.
Oui, et ça c'est un point important parce qu'on voit d'ailleurs comment la pensée économique se construit parfois par révolution. Il y a des gens qui disent mais on a complètement oublié quelque chose ou il y a quelque chose de complètement nouveau qu'il faut introduire, mais quand même le plus souvent par addition successive à un raisonnement. Et là, Shackle reprend cette notion de l'univers ex ante et de l'univers ex poste. Il le combine avec, d'abord, sa vision de l'incertitude, il le combine avec l'importance qu'il donne à l'imagination, et ça lui permet de construire un temps, ou plutôt de construire une vision de l'économie comme un processus qui s'écoule un petit peu comme un fleuve, alors avec des gens qui sont sur le même plan, d'une certaine manière, physiquement, mais qui, pour certains, sont encore dans l'anticipation d'un résultat, et qui, pour d'autres, sont déjà dans l'observation du résultat de leur action. Autrement dit, ce à quoi on est confronté dans la pensée de Shackle, c'est le fait que les agents occupent des positions différentes par rapport aux décisions. Certains sont encore dans le temps ex ante, d'autres sont déjà dans le temps ex poste, mais ils sont en réalité dans le même temps. Autrement dit, ils sont entièrement liés. Et évidemment, on peut penser que les gens qui sont dans la phase d'anticipation, ils regardent ce qui est arrivé aux gens qui ont vu se dénouer leur action.
Alors, dans votre ouvrage, intitulé « Quelle économie pour le 21e siècle ?», publié en 2005, vous vous êtes inspiré de Shackle et de son fameux paradoxe que vous avez essayé de résoudre. Et ce paradoxe, c'est cette idée selon laquelle l'économie décentralisée, c'est-à-dire une économie où il n'y a pas de centre de décision unique, ne peut plus reposer sur une réponse mécanique des acteurs à des données objectives, mais sur des dispositifs institutionnels.
Oui, tout à fait. Alors, il y a deux paradoxes. Le premier paradoxe, je veux dire, c'est le fait que la crise est première dans l'économie. Et ça, d'autant plus qu'on est dans une économie monétaire. Bon, il y a un deuxième paradoxe qui, lui, est un paradoxe purement shacklesien. Ça consiste à dire, dans une économie décentralisée, l'incertitude radicale devrait paralyser les agents. Parce que les agents sont confrontés à un futur qu'ils ne peuvent pas maîtriser. Et donc, à un moment donné, ils disent mais qu'est-ce qui va se passer ? Donc, je n'agis plus. Or, pourtant, dit-il, on constate que l'économie ne s'arrête pas, y compris en période de crise. Y compris en période de crise, il y a toujours des gens qui se décident d'agir. Donc, il dit, comment résoudre ce paradoxe ? Deux manières de le voir, et qui sont d'ailleurs complémentaires. La première manière, c'est, il dit, c'est la puissance de l'imagination. On se refuse, parfois à tort, mais parfois à raison, à accepter le pire. Et si vous voulez, ça fait écho évidemment aux fameux esprits animaux de Keynes. Et puis l'autre chose, c'est qu'il y a des institutions qui vont d'une certaine manière stabiliser ou chercher à stabiliser l'environnement et qui vont aider à ce moment-là les agents à prendre des décisions. Donc en fait, le paradoxe de Shackle est une reformulation de choses que l'on trouve dans la théorie générale. Alors je rappelle, la théorie générale a été écrite en 1936, l'ouvrage de Shackle date de 1949, qui ont été considérées comme, je dirais, des diversions littéraires dans le raisonnement économique de Keynes, mais qui sont en réalité le cœur de son raisonnement économique. C'est la notion, justement, des esprits animaux et la notion que on ne se lance jamais dans un investissement, jamais dans une opération économique, sur la base d'un calcul économique. C'est toujours sur la base d'une pulsion de vie qui est extrêmement importante.
Alors, vous citiez ce rôle central de l'imagination dans le processus de décision, l'imagination comme ce qui permet peut-être de combler le néant du futur et de la surprise que Shackle va également tenter de formaliser. Alors, quelle est cette notion de degré de surprise potentielle qui serait causée par un événement ? Parce que ce qui est important, c'est que cette surprise, bonne ou mauvaise, va influencer largement la prise de décision future. C'est pour ça qu'elle intéresse Shackle.
Tout à fait. Ce qu'il constate, c'est que quand on est face à l'événement inattendu, eh bien, la première réaction, c'est de tout arrêter. Tout arrêter, ça veut dire que vous allez garder votre richesse sous la forme de la monnaie, parce que la monnaie, c'est ce qui vous permet d'être le plus flexible, de pouvoir se protéger de la manière la plus sûre. Bon. Et évidemment, ça veut dire que l'investissement va s'effondrer complètement. Alors, Shackel dit, c'est le jeu de notre imagination qui soit va nous faire refuser la catastrophe, soit va nous faire voir les aspects positifs de cette catastrophe et va guider à ce moment-là nos investissements. Alors, Didier, on peut tout à fait se tromper. Il y aura nécessairement des gagnants et des perdants. Mais il ne faut jamais oublier, justement, ce jeu permanent de l'imagination qui vient s'opposer au calcul et à la surprise.
Alors, cet ouvrage de Shackel, Expectations in Economics, n'est plus édité depuis 1952.
Oui.
Est-ce que vous pouvez nous raconter d'abord comment vous avez vous-même découvert Shackel en général et cet ouvrage en particulier, et plus largement, pourquoi est-ce qu'il faudrait, selon vous, rééditer et traduire Expectations in Economics ?
Alors, je l'ai découvert de manière assez curieuse. Je m'intéressais, dans les années 1990, à ce qu'on appelle les auteurs du courant dit autrichien, c'est-à-dire grosso modo les élèves de Hayek, ou les gens qui travaillaient sur les pistes qu'avait ouvert Hayek. Et je tombe sur un ouvrage de Odriscoll et Rizzo, qui parle justement de la question du temps. Alors évidemment, ça m'intéressait beaucoup. Et je vois qu'il cite Shackel. Ah bon ? Donc, je vais d'abord chercher les premiers livres que je trouve assez facilement, et je vois que très souvent, dans les livres qu'il a écrits fin des années 50, début des années 60, ou dans les années 70, Shackel fait référence et dit « mais tout ce que je vous écris là, je l'ai déjà dit dans un livre que j'ai écrit en 1949 ». Et j'ai cette réaction de tout chercheur qui consiste à dire « bah, les sources secondaires, c'est pas suffisant, autant aller à la source primaire ». Et là, je me rends compte que la bibliothèque de l'École des hautes études ne l'a pas, la bibliothèque de Sciences Po ne l'a pas. Bref, j'en passe par la Bibliothèque nationale, et quand je demande l'ouvrage, on me le donne dans l'après-midi, et je vois un ouvrage, petit format, où les caractères, ça va être une police de 10, sur du papier, qui est quasiment du papier à cigarette, et ça vous dit quelque chose sur l'appauvrissement de l'Angleterre à la sortie de la guerre. Et ce livre est pour moi une réelle découverte. Alors, je pense qu'il mériterait effectivement d'être aujourd'hui traduit et édité avec bien sûr un commentaire critique, parce qu'il y a des choses qui sont datées dedans. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ce livre, il anticipe sur deux grandes avancées de la science économique. La première avancée, c'est la notion de saturation des capacités cognitives des agents, c'est Herbert Simon. Simon a été un très 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 grand économiste, mais c'était aussi un économiste psychologue aussi, qui était parti de la gestion et qui était arrivé à cette question de la psychologie.
C'est la naissance de l'économie comportementale.
Voilà, et ça, on voit que tout ce que dit Simon dans les années 70, dans les années 80, ça a déjà été dit par Shackel. Évidemment, ça a été dit avec d'autres mots, avec d'une certaine manière un autre vocabulaire, mais ça a été dit. Donc ça, c'est un point important. Le deuxième point extrêmement important, eh bien, c'est que quand vous regardez justement c'est quoi l'imagination, c'est quoi les préférences des agents, eh bien, vous arrivez immédiatement aux travaux de Daniel Kahneman et puis surtout de l'économiste avec lequel Daniel Kahneman travaillait. Vous savez, Kahneman a reçu justement le Nobel pour ses travaux sur la psychologie expérimentale et l'économie comportementale. Et là encore, on se rend compte que Shackel a eu l'intuition de tout cela. Évidemment, il n'a pas pu, d'une certaine manière, le démontrer. Il n'avait probablement pas les instruments scientifiques pour le démontrer, mais il a eu cette intuition. Et donc, il faudrait, je crois, remettre en perspective Shackel en disant, voilà, il s'agit bien là d'un précurseur qui fournit, d'une certaine manière, les pistes qu'ont développées d'autres personnes par la suite.
Merci beaucoup, Jacques Sapir. Je rappelle votre dernier ouvrage, L'euro contre la France, l'euro contre l'Europe, paru aux éditions du Cerf. Un grand merci. C'est la fin de cette émission. La semaine prochaine, on s'intéresse à l'économie du Japon depuis l'ère Edo jusqu'aux Abenomics, cette politique menée par Shinzo Abe. En attendant, vous pouvez bien sûr réécouter nos émissions sur franceculture.fr et en podcast. Rendez-vous également sur Twitter, hashtag Entendez-vous l'écho.